C'était il y a 3 jours. On est mardi et j'arrive dans un crachat impossible sur le parvis de Saint-Gilles. La place est déserte, Bruxelles est froide et maussade, Bruxelles a le visage de la sidération. Sidération est un mot que j'entends en permanence depuis quelques mois dans notre écosystème de l'aide et du soin. Sidération de se faire annoncer par voie de presse que d'autres ont décidé unilatéralement de désagréger nos expertises, de détruire nos équipes, de déconstruire nos métiers. C'est sur cette note très grave sur le clavier des désillusions que démarrent ces rencontres 2025 sur les jeunes en errance. Cela fait depuis près de 30 ans que les CMEA France organisent ces rencontres annuelles. Nous sommes 120 travailleurs sociaux belges et français réunis à la Maison du Peuple de Saint-Gilles en ce mardi de novembre et nous démarrons nos travaux sur la musique du désintérêt que les politiques ont de nos métiers. Nous entamons 3 jours de travaux collectifs tandis que dehors, sous le crachin, la ville vit 3 jours de grève et de mobilisation sociale. Nous sommes de Toulouse, de Liège, de Rennes, de Bruxelles, de Marseille, de Strasbourg. Nous sommes de la ville et de la ruralité. Et nous nous réunissons chaque année pour discuter de nos pratiques professionnelles avec les jeunes en errance. C'est notre petite résistance à nous d'avoir maintenu ces rencontres cette année à Bruxelles, malgré les coupes présentes et à venir dans les budgets dédiés à cet événement. Aujourd'hui, on le sait, notre travail est irrémédiablement associé à des orientations trop à gauche qui sont combattues par ceux qui détiennent le pouvoir et le cordon de la bourse. La perte de financement n'est qu'une des défaites dans la bataille culturelle que nous vivons. Ce qui se joue plus globalement dans cette guerre culturelle, c'est la disqualification des enjeux sociaux que nous défendons. C'est une guerre qui se mène avant tout dans les esprits. Les conservateurs mènent une offensive massive dans nos cerveaux et leur objectif est de refaçonner nos manières de penser et d'imposer les termes du débat public. Durant ces 3 journées sur les jeunes en errance, nous fourbissons des armes qui devraient être redoutables dans cette guerre culturelle. Car ici, nous discutons de projets d'accompagnement qui font leurs preuves. Nos pratiques professionnelles nous donnent une expertise indiscutable qui devrait être le socle des politiques publiques. Souvenez-vous, il fut un temps pas si lointain où les politiques eux-mêmes prônaient l'evidence-based policy, les politiques basées sur les preuves. Les preuves, c'est nous qui les détenons sur le terrain, c'est nous qui détenons les solutions. Et quelle belle solution que celle de la tribu de Dachen à Lannion, une petite ville rurale des Côtes d'Armor. Je rencontre Caroline, éducatrice, et Kevin, bûcheron de son état. Ils ont lancé il y a 10 ans des ateliers de bûcheronnage avec les jeunes de la rue. Aujourd'hui, Kevin réserve 2 jours par semaine dans son agenda professionnel pour entretenir 9 hectares de bois avec les jeunes. Il y a aussi un charpentier avec qui les jeunes ont construit des roulottes, des tiny houses, qui hébergent désormais des femmes en errance de 18 à 25 ans. Des caravanes se sont ajoutées et 20 de personnes vivent aujourd'hui sur le lieu. Elles peuvent y rester le temps nécessaire pour se reconstruire. Leur seule obligation, régler 50 euros par mois pour les charges. La tribu de Tachen, c'est l'anti-institution, peu de financement, de l'autogestion, dans l'esprit du wagon, un autre lieu culte breton qui fut la Mecque du punk au tournant des années 2000. La tribu de Tachen nous permet d'ouvrir les discussions et les critiques durant ces journées sur l'habitat léger, sur l'intérêt et le désintérêt du logement alternatif dans le travail avec les jeunes de la rue. Durant ces 3 journées, les participants martèlent des méthodologies testées et validées. La temporalité de l'accompagnement, l'aller vers, la prévention, le développement du pouvoir d'agir, la continuité du lien, l'intersectorialité. Rien de révolutionnaire tout compte fait, on reste dans des postures professionnelles forgées depuis 20 ans par une époque, par une génération. Le défi du travail social est l'adaptation de ces méthodes au nouveau public, aux nouvelles demandes de ces publics. On se rend compte avec ces 3 journées que l'innovation sociale ne se situe pas tant dans notre capacité à chambouler les méthodes, mais bien plutôt dans notre capacité à les adapter. Alors oui, les publics évoluent, et différemment selon les territoires. À Bruxelles, depuis quelque temps, les scènes de consommation sont davantage visibles dans l'espace public. À Paris, Après les tensions de Stalingrad et de la colline du Krak, les consommateurs ont été chassés vers le 9-3 et dans les sous-sols du quartier Châtelet-les-Halles. Aujourd'hui, en surface de ce quartier animé, les travailleurs sociaux du Centre d'action sociale protestant croisent des jeunes qui viennent de banlieue, qui fument un peu ou un peu trop, qui ont abandonné leur cité et se sont installés dans l'espace public de l'hypercentre. Sous le quartier des Halles, par contre, en sous-sol, ils me décrivent des scènes inimaginables. Il existe des kilomètres de tunnels et d'immenses galeries souterraines qui rejoignent les catacombes. Et comme dans une série B de science-fiction, tout un village de consommateurs y sombre irrémédiablement dans une violence inouïe. Aujourd'hui, les travailleurs sociaux du CASP Les Halles maraudent ces souterrains accompagnés d'agents de sécurité, des bodyguards privés. Et quand je dis privés, je parle bien de boîtes privées de sécurité, car on noue des collaborations avec qui veut bien collaborer. Une alliance bâtarde, certes, antinaturelle, mais qui fonctionne étonnamment à merveille. L'adaptation des pratiques est le point central des discussions de ces trois journées. Avec les jeunes, il faut se mettre continuellement à la page. En Haute-Garonne, par exemple, le dispositif Havre travaille désormais avec des 14-18 ans en rupture institutionnelle, des mineurs qui fuient les foyers ou les internats d'urgence. Ils vont à la rencontre de ces enfants qui vivent en squat ou dans des voitures et travaillent sur la temporalité longue. 2 à 3 fois par semaine, pendant des mois, des années, ils rencontrent chaque jeune, mais évite de se cantonner aux sempiternelles discussions sur les addictions, la violence, l'exploitation ou la prostitution. Il se concentre plutôt sur les demandes du jeune. Petit à petit, il tente de placer le jeune lui-même comme une ressource dans son environnement. On est mercredi matin, la météo s'est levée et je rencontre un gars de Strasbourg à l'accueil café. Il me raconte une histoire dont j'avais eu vent. Du travail social libertaire, un squat, il y a 15 ans, investi par une petite équipe de jeunes, de très jeunes travailleurs sociaux et de gars à la rue. La maison Mimir est une occupation de fête. Et la guerre culturelle commence avec la municipalité qui voit d'un drôle d'œil ce projet, on ne peut moins, institutionnalisable. Les jeunes sont hébergés dans la maison Mimir, qui devient, à force de talent, un tiers-lieu, un vivier de travail social communautaire avec les jeunes de la rue. Non-conformité, incendie des lieux, projet pédagogique libertaire, travail social clandestin, la municipalité voit rouge. Mais les travailleurs tiennent bon dans leur stratégie cavalière, à tel point que la municipalité est en PLS devant les résultats probants de ce travail social et culturel peu ordinaire. La brèche est entamée, la ville de Strasbourg craque et elle accepte de léguer par emphytéose le bâtiment et de soutenir l'association de la maison Mimir. La guerre culturelle, il y a encore 10 ans, pouvait être gagnée en creusant des brèches, en portant des coups à la logique formaliste et institutionnelle des municipalités, des régions, de l'État. Qu'en est-il des brèches aujourd'hui chez nous, en Belgique, à une époque où l'on annonce chaque semaine une nouvelle mesure qui va pénaliser les usagers de nos services sociaux? Avec la réforme du chômage et les 40 000 Bruxellois qui en seront exclus, on entérine le fait qu'on est entré dans une révolution copernicienne de la sécurité sociale. C'est la plus grande réforme de la sécurité sociale, et ça depuis l'après-guerre. C'est une réforme paradigmatique qui aura des conséquences systémiques, et cela aussi chez les jeunes. On est désormais dans la figure de l'État faible. Dans cette réforme du chômage, cette faiblesse de l'État est surlignée par la solution CPAS qui est proposée. Cette solution CPAS, l'État coupe le chômage et dit que le CPAS va éponger. Alors même que les CPAS sont une force résiduaire qui devrait donc être la dernière à être activée, c'est Sébastien Le Poivre, qui est président de la Fédération des CPAS bruxellois, qui a été le témoin privilégié de cette inconsistance de l'État, de cet État faible, qui appelle les CPAS à absorber les conséquences de la réforme du chômage. « Je m'éloigne des jeunes en errance, me direz-vous, mais pas tant que ça. car le poids de la réforme du que la réforme du chômage mettra sur les épaules du CPS est le même poids que celui des travailleurs sociaux qui travaillent avec les jeunes en errance. Le travail social est formalisé, institutionnalisé, cantonné à un bureau dans les clous. Le travail social devient dangereusement une profession administrative où il suffit d'appliquer les règles imposées. Les travailleurs sociaux veulent pourtant exercer le métier pour lequel ils ont été formés, garantir les droits fondamentaux et les droits humains, et non contrôler et sanctionner. Les politiques dévoient le sens de notre profession. Ils gagnent cette guerre culturelle. Ils la gagnent dans les urnes, dans les médias, dans les débats parlementaires et jusque dans l'imaginaire collectif. Mais qu'est-ce qu'une guerre culturelle tout compte fait ? Je vous réponds avec ChatGPT. Une guerre culturelle, c'est un conflit intense et polarisé entre deux visions du monde opposées, principalement sur des questions morales et sociétales. Depuis les années 60, il y a eu des guerres culturelles sur le modèle familial, le féminisme, le droit à l'avortement, les droits des homosexuels, la discrimination positive et bien d'autres. Je me la joue oracle durant ces journées jeunes en errance et je vous l'annonce aujourd'hui. Le travail social lui-même est au centre d'une guerre culturelle que nous perdons déjà. Nous la perdons même sur la prévention du sans-chez-soirisme chez les jeunes, ce dont nous parlons ici. J'entame la troisième journée de ces rencontres internationales sur les jeunes en errance et s'organise un atelier sur le plaidoyer. La question est désormais simple, en France comme en Belgique. Comment faire du plaidoyer alors que les politiques ne sont tout simplement plus des interlocuteurs ? Il faut désormais s'y faire et attention à ceux qui parmi nous font du déni. La rupture avec les politiques est consommée. C'est eux qui, unilatéralement, ont retiré la table de discussion. C'est eux qui, unilatéralement, ne répondent plus à nos mails. C'est eux qui, unilatéralement, ont licencié le personnel des cabinets ministériels bruxellois. C'est eux qui, encore une fois, unilatéralement, communiquent par voie de presse les réformes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ne pensez pas que c'est juste un mauvais moment à passer. Ne pensez pas que tout ira de nouveau comme avant si Georges Louis opère une réorientation professionnelle. Non. Cette funeste année 2025 marque un tournant. Il y a eu un avant, il y aura bien sûr un après, mais cet après ne sera plus jamais comme l'avant. Il faut l'accepter, vite faire son deuil et se réinventer. Et désormais, l'enjeu crucial du travail social est de pouvoir répondre à cette question. Comment faire du plaidoyer sans que les élus, sans le personnel politique, le canal de communication entre les politiques et la société civile a été démantelé et on ne sait pas où se trouve celui qui le reconstituera. Un petit indice quand même, il se pourrait qu'il se trouve du côté de la jeunesse et des réseaux sociaux. C'est en tout cas ce qu'on me dit dans cet atelier qui conclut ces journées jeunes en errance. Laissez-moi finir. En 30 secondes, promis, et en vous demandant de vous concentrer sur ces quatre dernières lignes. Ce que nous impose la guerre culturelle, c'est une remise en question à l'échelle d'une profession tout entière. La foudre antisociale qui nous tombe sur la tête est à prendre comme une injonction à repenser la place politique de nos associations. Le travail social est un sport de combat.